Emmanuel Pirer. Première leçon. Nous n'irons pas au spectacle. Amateur, professionnel. Carnet d'adresse. Regard. Pied de danseur. Critique de danse.
Eh bien, la nuit est tombée. Et le paysage est à présent invisible. La seconde partie vient de commencer. Et seuls sont encore visibles les énormes projecteurs accrochés dans les arbres. Et en dessous, les corps des danseurs. Tandis que nous ne distinguons plus les arbres derrière les projecteurs. Et que nous ne nous distinguons plus nous-mêmes.
Étant donné que les corps...
Je pourrais dire un seul mot, corps.
Emmanuel Pirer.
Rallumer la lumière. Mais j'en profite pour dire d'autres trucs dans le poste.
Étant donné que les corps sont d'infinis objets d'étude, nous pourrions rester ici, dans la nuit, avec nos manteaux, et observer un spectacle de danse. Observer la disparition des arbres et mesurer, pour s'en resservir plus tard, les corps inhabituels et les gestes inhabituels.
Eh bien, en réalité, leur truc est qu'avec leur corps de professionnel, les danseurs font comme s'ils se servaient de leur corps pour la première fois et font de cette manière figure d'amateur. C'est ça le truc.
Et ce serait bouleversant. Les spectacles de danse sont un sujet bouleversant. Ils éliminent les arbres du contexte et éliminent le contexte tout entier de manière bouleversante. Néanmoins, ils ne nous intéressent pas aujourd'hui, car c'est en fait de l'inverse dont je veux parler. Je ne suis pas là pour être critique de danse. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour être critique de danse. Je ne suis pas là pour aller à des soirées et pour lire mon carnet d'adresses. Je suis là pour avoir perdu mon carnet d'adresse, pour marcher dans la neige et pour regarder tomber la neige. Je suis là pour être absente, du fait qu'à certains moments j'avance véritablement dans la neige, c'est-à-dire sous l'épaisseur de neige, les yeux ouverts dans les cristaux. Ce dont je veux parler, c'est de la danse des amateurs que tout le monde peut danser. De la danse de société, où les corps amateurs font semblant d'être professionnels.
Pourquoi me regardez-vous comme ça ?
Je veux parler de la danse qui a lieu ni dans la lumière, ni dans le noir complet, mais dans la pénombre. Si bien qu'on peut distinguer le jeu de jambes, ainsi qu'en général, le regard et l'étrangeté folle du regard. Leçon 2. Nous irons uniquement vers la pénombre. Amateur professionnel. Regard. Dans la pénombre, la part de lumière éteinte est pour l'intime, la part de lumière allumée pour la société, et le résultat pour le dangereux mélange des deux. La danse de pénombre est un mélange contre nature qui prend, alors qu'il ne devrait pas prendre. C'est un phénomène impossible, réalisé par d'incompétents amateurs. Je suis là pour être critique d'impossible pénombre. Je suis là pour faire une collection
ce
de regards.
Des corps et des regards dont je veux parler.
Emmanuel Pirer.
Des corps amateurs en boîte de nuit et des regards amateurs qui tombent plus bas que le sol.
Collection de regards. Regard numéro 1. Regard de la nuit, regardant sous les arbres le jour faire des mouvements. Regard numéro 2. Regard fou du danseur dans la pénombre.
Comme tu me regardes.
Comme tu nous regardes, père.
Les enfants du Gaulin.
Qu'as-tu, père? Nous souffririons bien moins si tu nous mangeais. Tu nous as vêtus de ces pauvres chairs. Enlève-les-nous.
La plus délicate et la plus amolie des femmes jettera des regards malveillants sur l'homme qui les traint et sur ses enfants.
Le Deutéronome.
Et elle se cachera pour les manger.
Leçon 3. Nous irons dans la cordillère des Andes. Regard. Carnet d'adresse. Curieusement, il y a du point de vue du regard une certaine similitude entre danseur et anthropophage. Curieusement, l'expérience anthropophage n'est qu'en partie seulement une affaire d'estomac et montre pour le reste une subtile panoplie de regards déséquilibrés.
Collection de regards, regard numéro 3.
Comme le précisent de nombreux témoignages, en particulier quand l'anthropophage le devient sous le coup des circonstances, à cause d'un naufrage ou d'un accident. Le regard du danseur, comme celui de l'homme qui s'apprête à manger ses enfants, soigneusement dissimulé derrière un buisson, est fixe, parce qu'il n'a plus qu'une seule idée en tête, et trouble, parce que le restant de ses idées vient de tomber dans un ravin, et qu'il ne les voit plus, et ne distingue pas plus le ravin, quoiqu'il se trouve juste au bord. Il faut toutefois noter que le regard d'un danseur demeure incomparablement métaphorique par rapport à un regard cannibale. Il y a bord de ravin réel et bord de ravin métaphorique. Différence qui se répercute aussitôt dans les carnets d'adresses où les danseurs se trouvent aux meilleures places. Tandis que les noms des anthropophages s'effacent au contraire, comme je vous le raconterai tout à l'heure si nous avons le temps. Si bien que de ce point de vue-là, au moins, la métaphore apparaît préférable au réel. Mais je dois pour l'instant ajouter plusieurs détails au sujet de la danse. En tout cas, pour le danseur, pas d'inquiétude. Son carnet d'adresses est loin d'être métaphorique et se porte à merveille.
Jingle.
Leçon 4. Nous irons voir derrière les jambes. Pied de danseur.
Qu'y a-t-il dans tes pieds?
Jeu de jambes.
Qu'y a-t-il derrière ton jeu de jambes?
Critique de danse, critique de magie. Professeur Jacquin.
Tour ouvert. Le danseur exécute. 1. Droite en avant. 2. Gauche en avant, en ouvrant la position. En position de promenade. 3. Droit croisé devant gauche.
Plus une danse est compliquée à exécuter, plus on pense que le danseur est littéralement absorbé par ses pieds, que son esprit tout entier est descendu dans ses pieds et les fait se mouvoir subtilement. Mais en réalité, ceci ne prouve rien. Ceci prouve seulement que le piège a fonctionné, car en réalité, les pieds sont loin d'être la chose la plus importante pour la danse. Ils sont plutôt le paravent-peint utile pour dissimuler le véritable paysage. Quand l'esprit vient de tomber au fond d'un ravin de désir...
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Les pieds persistent aimablement en société, comme s'ils ne s'apercevaient de rien.
4. Gauche légèrement en arrière. Pointe tournée en dedans.
Professeur Jacquin.
5. Droit en arrière. 6. Gauche en arrière.
Les pieds sont l'arbre qui cache la forêt de désir.
Ne vous inquiétez pas, ma belle.
Je ne suis pas tellement inquiète. Qu'y a-t-il dans des pieds?
L'esprit n'est pas dans les pieds. Et le cœur n'est pas non plus spécialement dans les pieds, mais la ruse de l'intelligence dissimulatrice est dans les pieds, en particulier dans les pieds compliqués.
Sept, droit à droite. 8, gauche assemblée au droit. 1, droite long en avant. 2, gauche en avant, en ouvrant la position.
Qu'y a-t-il derrière un jeu de jambes?
En réalité, derrière le jeu de jambes du danseur, il y a le merveilleux jeu de jambes de la jeune fille, encore à peu près invisible.
vous voyez, il y a mon jeu de jambes, encore invisible.
Le jeu de jambes primitif, qui pour l'instant ne fait que rester caché, incubant invisiblement derrière la scène. C'est pour cette raison que le jeu de jambes du danseur est un jeu truqué. Et un arbre à double fond, c'est un secret, un tour de magie où on fait semblant d'ignorer les trucs. Scoop numéro 1. Le scoop est que le secret est connu par tout le monde. Chacun sait qu'il a le regard et l'esprit brouillés par le désir et que l'agilité de ses pieds cache quelque chose. Et un scoop dont tout le monde est au courant est lui-même très suspect. C'est un anti-scoop. Et donc, si les danses de société sont un spectacle, elles ne sont pas un spectacle de danse, elles sont un spectacle de magie. Et je suis donc plutôt critique de magie. Et si les danses ne sont pas un spectacle professionnel, elles sont alors une forêt magique, une forêt invisible, pleine d'oiseaux et de branches sortant d'une poche intérieure de blouson et pleine de jambes. Et je suis critique de forêt, c'est-à-dire critique d'un genre tout particulier. Je marche dans la forêt, c'est-à-dire sous l'épaisseur de la forêt, les yeux ouverts dans les feuilles et dans les fourrés. Comme je l'expliquais précédemment. Leçon 5. La danse détourne l'attention. Regard. Pied de coureur à pied. Main de magicien. À Atlanta, les chaussures en or de Michael Johnson détournèrent l'attention des autres coureurs et de cette manière, il gagna le 200 mètres. Un magicien détourne, en parlant, l'attention des spectateurs de ce qu'il est en train de faire avec ses mains et avec sa scie.
Mesdames, messieurs,
aïe ! Un danseur détourne l'attention de son véritable désir avec la complexité de ses pieds.
Légèrement, le pied gauche et simultanément, il attrape de sa main gauche.
Je voulais juste te le garder.
Par ses pieds techniques, il détourne l'attention de ce qu'il fait avec tout son corps et avec son regard fou. Moi-même, souvent je détourne mon attention en regardant la multiplicité des choses visibles ou l'infinité des choses invisibles, ça dépend.
Regard numéro 4. Regard détourné vers la multiplicité des bords extérieurs du monde intérieur.
En revanche,
il s'introduisit en elle,
Emmanuel Arsan,
par une poussée rectiligne, irrésistible, que rendait facile l'absolue rigidité de son pénis, aussi bien que l'humidité de la chair.
En revanche, la littérature érotique oublie de détourner l'attention, de tourner autour du pot, et va droit au fait. Si bien que le regard numéro 5 est un regard immobile.
Le regard numéro 5 ne bouge plus du tout.
On dirait qu'il est mort.
Mais en fait, non. Il n'est pas mort.
Jingle !
C'est toi, ma chérie.
Viens là. Ma chérie, assieds-toi.
Viens là.
Leçon 6. La guerre des mamans. Pied, utérus, système nerveux.
Assieds-toi, ma chérie. Ne, tu ne regardes pas. Maman.
Étrange M. J'ai une autre révélation concernant les mamans, qui d'ailleurs sont encore un sujet d'étude très énigmatique. Scoop numéro 2. Exception logique au scoop numéro 1. Le secret de la danse est connu de tout le monde, comme je le disais. Une maman n'est pas tout le monde. Donc, une maman ne connaît pas le secret. Tout ceci est troublant, mais mathématique, moins par moins égale plus. Vous inquiétez pas, j'ai été un castor junior terriblement compétent durant mon enfance.
Un castor junior, c'est quelqu'un qui a réponse à tout. Qui connaît bien la nature qui sait utiliser ses 10 doigts.
Et quand je ne l'étais pas, j'ai triché. Donc, par un miracle logique, les mamans sont les seules à ne pas être au courant pour la magie, pour la forêt magique et la forêt invisible. Ce que voudraient par-dessus tout les mamans, c'est considérer la danse comme une activité sportive et technique. Toute leur attention se concentre sur le jeu de jambes, comme le conseille le professeur Jacques Pince. Les mamans disent oui au conseil, les mamans approuvent le professeur. Et c'est un combat de chaque jour, car il ne manque pas d'ennemis postés derrière les fenêtres ou buvant discrètement un verre au comptoir.
Tout le soin des mères devrait être de calmer le système nerveux de leur fille.
Vicomte de Brieux-Saint-Laurent.
Tandis que les danses où elles se pâment de plaisir l'excitent outre mesure.
Et heureusement, elles ne prêtent pas l'oreille à ce genre de médisance.
La danse donne la tuberculose. La danse ruine la suspension de l'utérus. La danse vous fait mourir. Et l'homme valse. Il valse encore, mais c'est avec un cadavre.
Certaines mamans aiment croire qu'elles sont seules à mener bataille dans ces chaotiques systèmes nerveux. Et rien, pas une miette, plus rien du tout pour ce saboteur de Brieux. Et je suis correspondante de guerre. Rien que des mamans dans la place. Des mamans en armure menant bataille sur leurs chevaux de maman. Des armées maternelles occupant tout l'espace de leur solide amour en armure.
Sans bouger. D'accord ? Toi, ma chérie. Tu veux bien ? Reste là. Assieds là.
Leçon 7. Le corps est en retard. Mentalement vierge. Physiquement vierge.
Bien sûr, elle est vierge.
Brieux et consort.
Mais elle est vierge, moins la danse. C'est mathématique.
Ouais, alors, vierge ou pas vierge ?
Eh bien, vous êtes terriblement jeune et peut-être êtes-vous vierge physiquement, mais mentalement, les jeux sont faits. Plus moyen de vous repêcher. Vous êtes dans la rivière, au fond de l'eau.
Elle a l'air comme ça d'être en train de marcher dans la nuit pour rentrer à la maison et de pousser la barrière du jardinet de ses parents ou de marcher sur la pointe des pieds dans le couloir ou de dessouder le bloc de glace d'entrée de l'igloo familial puis de le remettre en place pour se coucher entre ses frères et sœurs. Mais en réalité, elle n'est déjà plus d'igloo, ni aucune sorte de maison. Elle n'est plus aucune sorte de castor junior.
Un castor junior, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller, qui ne s'ennuie jamais, qui a réponse à tout.
Elle habite dans la mousse au fond d'une rivière. Elle se déplace avec l'eau le long des cailloux en direction de la mer.
T'inquiète pas, ma belle, c'est justement ça qui est beau.
Ce que j'aime dans l'idée de la danse, dans l'idée qu'une jeune fille qui rentre chez elle après avoir seulement dansé n'est irrémédiablement plus tout à fait vierge, c'est que le corps vient en plus, que le passage à l'acte arrive après, et que l'esprit fait déjà tout seul une bonne partie de la route, non pas en ce qui le concerne lui-même, mais en ce qui concerne l'état du corps. Rien n'est plus curieux et rien n'est plus habituel chez un être humain que ce qu'un esprit fait subir à un corps chez qui il habite. Et rien n'est plus curieux ni plus habituel chez une jeune fille que d'être encore physiquement vierge tout en ne l'étant déjà plus mentalement et de ne plus habiter nulle part. Leçon 8. Une jeune fille...
Qu'est-ce qu'elle a au corps ?
Est tout à fait comme une mystique.
Qu'est-ce qu'elle a aux mains, aux pieds, aux cœurs ?
Et un peu comme un alpiniste.
Qu'est-ce qu'ils sont aux pieds, aux mains ?
Pied de mystique. Pied d'alpiniste. Mentalement stigmatisé. Physiquement stigmatisé.
Alors, je vis descendre sur moi... Des marques de ses blessures très saintes.
Catherine de Sienne.
5 rayons de sang dirigés vers mes mains, mes pieds et mon cœur.
Donc, je voulais dire que je trouve cette histoire de danse très belle, très beau que le corps soit en retard et que l'esprit soit suractif. Et je trouve beau et extravagant de la même manière que les mystiques aient des stigmates alors que personne ne leur a rien fait, mais simplement par la force interne de leur amour. Les stigmates sont de véritables blessures.
Je parlais encore que les rayons changèrent leur couleur de sang en blancheur éclatante.
Le corps est vraiment abîmé.
C'est sous forme de pure lumière qu'ils me frappèrent aux 5 endroits du corps. Aux mains, aux pieds et au cœur.
Comme si rentrant chez elle, Catherine de Sienne était passée par erreur à travers 5 puits oubliés sur son chemin. Ou comme si elle avait croisé des bandits l'ayant attaquée pour lui voler son argent.
Aïe !
Mais pas du tout. Il ne s'est rien passé du tout. Aucune aventure sanglante n'a eu lieu, car notre amie avançait seulement métaphoriquement sur la route. Et non réellement. Elle avançait donc pas métaphorique après pas métaphorique, vers le Seigneur. Mais en fait, elle était tout simplement allongée seule sur ses draps. Où rien ne pouvait lui arriver. Et les blessures sont apparues par son seul désir et sa seule concentration, de manière magique, mais sans assistante, sans double fond et sans chapeau. Voilà donc, selon moi, une des informations les plus intéressantes qui soit. Un simple corps avec sa tête et nous pouvons obtenir un tour de passe-passe ex nihilo. Et de la même façon, les alpinistes...
Je foulais dans une sorte d'extase, la neige sommitale de l'Annapurna. J'étais le premier à être parvenu à son fait. Comme projeté dans le ciel, je me trouvais en état de grâce.
De la même façon, les alpinistes eurent des stigmates, les pieds et les mains gelés, et ils perdirent leurs orteils. Bien sûr, les blessures ne leur survinrent pas du seul fait de leur esprit, comme ce fut le cas pour Catherine. Elles furent surtout causées par le froid. Toutefois, il est intéressant de constater que l'exaltation mystique du célèbre alpiniste Maurice Herzog, en haut de la montagne, fut la raison de leur attardement dans ce froid mortel. Tandis que son ami, le célèbre alpiniste Louis Lachenal, qui grimpa avec lui au sommet, serait plutôt, pour sa part, retourné au plus vite à l'abri, avec ses pieds entiers. Car Louis voulait encore danser, et encore escalader d'autres montagnes dans la suite de son existence. Leçon 9. Danser est tout le contraire de parler. Plan. Parole. Silence. Dans ma répartition personnelle des couleurs, si la parole est par exemple de couleur rose, le silencieux est alors complètement blanc. Et même plus que blanc. Le blanc qu'il habite ne s'arrête pas exactement à la limite de son corps, mais déborde légèrement autour de lui et l'entoure d'une auréole blanche et brillante. Ce débordement de blanc sur le paysage est la force du silencieux. Par son silence, il gagne sur les lieux. Il est au centre de son propre espace qui lui ressemble. Il se perd dans son espace d'une taille trop grande pour lui et utilise sa perte comme levier. Il se déplace et s'élève dans son blanc, autonome, et s'envole. Je m'aperçus de cela un jour où le tennisman espagnol Juan Carlos Ferrero expliqua son envol à Nelson Montfort par sa petite voix silencieuse intérieure qu'il encourageait silencieusement depuis qu'il était petit et lui rappelait silencieusement la liste des raisons qu'il avait de jouer extraordinairement bien. Si bien que le public de Roland-Garros pouvait lui aussi constater cet envol dans les très beaux coups qu'il faisait et dans la progression de son score sur le panneau lumineux. Et moi-même, en prenant de la graine, je tente de la même façon de m'encourager silencieusement. Je renvoie silencieusement toutes les balles. Je m'encourage en rentrant dans la nuit et lorsque je cesse d'être vierge presque sans rien faire. Des alpinistes, un danseur, une jeune fille, un tennisman espagnol sont mes héros de films muets. Ils font les gestes, et par-dessus, je rajoute les paroles. Et au bout du compte, je parle. Je suis en train de parler. Je suis rose. Zut et zut. Neuvième leçon, bis, rectificatif. Je ne suis pas là pour être Nelson Montfort à 100%. Plan. Parole. Silence. Critique de sport. En fait, tout mon effort contre nature est de parler à certains moments, non en rose, mais en blanc. Dans le blanc, c'est là que tout a lieu.
Je voulais juste te regarder.
Et c'est pourquoi, même si j'interviewais Ferrero, je ne devrais pas être complètement Nelson Montfort. Je ne suis pas là pour être critique de tennis. Dans l'idéal, je suis là pour être en même temps une sorte de Ferrero interviewant Ferrero. Car normalement, dans l'idéal, à partir du blanc, on devrait pouvoir extraire toutes les couleurs. Je m'encourage. Je suis là pour faire de la radio muette. Leçon 10. Pourquoi la danse nous fait rire? Pied. Silence. Rire. Professeur Jacques Pince.
1. Prends une forte détente de la jambe droite et simultanément balance énergiquement la jambe gauche en avant en appuyant fortement sa main gauche sur l'épaule droite du danseur.
C'est justement parce que danser est le contraire de parler que danser est une activité des plus bizarres et des plus comiques qui soit. D'ordinaire, dès qu'on est plus d'une personne, on parle pour que tout devienne normal. Alors que les danseurs sont plus d'un, ils sont même de nombreuses personnes en train de se servir de leur corps de la manière la plus outrée. Et pour autant, ils ne se mettent pas à parler pour se rattraper. Ils sont en pleine sexualité métaphorique et font comme s'ils ne voyaient rien.
Regard numéro 6. Regard comique issu de la pénombre, faussement aveugle et vraiment sexuel.
Et tout est suspendu comme si de rien n'était dans l'anormal. C'est ça qui va pas. C'est ça qui est bien. Comme promis, regard. Carnet d'adresse. Leçon 11. Comme promis, avant de partir, nous irons dans la cordillère des Andes.
Comme tu nous regardes, père, qu'as-tu?
Les enfants du Golin.
Père, nous souffririons bien moins si tu nous mangeais. Tu nous as vêtus de ces pauvres chairs. Enlève-les-nous.
Pourquoi me regardes-tu de cette manière?
Je sais pas.
Comment les anthropophages, improvisés sur le vif à la suite de l'accident de leur avion, eurent de nombreuses et sombres difficultés? Un anthropophage, de manière générale, s'il souhaitait se faire inviter à déjeuner, n'y parviendrait qu'en se donnant le plus grand mal. Un anthropophage est entouré de tables inoccupées et d'assiettes propres et vides et n'a plus tellement d'amis. Son nom s'efface des carnets d'adresse. Mais heureusement, il préfère aussi prendre seul son déjeuner et n'invite personne non plus. Si bien que certains d'entre eux réussirent à faire disparaître l'utilité même du carnet d'adresse. cause de l'accident, les survivants furent obligés de s'improviser anthropophages et virent bientôt que leurs soucis résidaient précisément dans l'improvisation. Ils constatèrent assez vite qu'ils étaient passés de cette manière sur une autre face de l'humanité et qu'ils ne pouvaient désormais plus comprendre ceux qui étaient restés sur la première face et n'étaient plus non plus compris d'eux. Même une fois tirés de ce mauvais pas, ils ne purent que partiellement retrouver une vie normale.
Eh ben, je sais pas. Nous habitons tous ensemble. Tous ceux qui étaient dans l'avion, nous habitons dans la même rue. Nous préférons nous fréquenter entre nous. Nous faisons ensemble des barbecues dans nos jardins, qui sont tous très très proches les uns des autres.
Ainsi, comme toutes leurs connaissances habitaient désormais dans la même rue, aucun d'entre eux n'avait besoin de carnet d'adresse. Et ces carnets furent alors classés parmi les objets tout à fait inutiles. Si leur adresse ne s'effaçait pas, c'est qu'ils avaient eux-mêmes d'abord pris la précaution d'effacer les carnets de la surface de la Terre, en tout cas pour ce qui était de leur quartier. Quant aux danseurs, comme je le disais, il se porte à merveille, ainsi que son adorable ami.
Je voulais juste te regarder.
Épilogue. Bon, au revoir, j'y vais. Mentalement, physiquement, honnêtement. Épilogue. Et cependant, vous savez, certaines personnes n'ont vraiment aucun souci.
Si la danseuse a suffisamment d'élan, elle doit passer facilement son contact du corps par-dessus l'épaule.
Professeur Jacquemin.
Elle passera aussi bien par-dessus l'épaule gauche, ou même la tête du danseur, sans que celui-ci soit obligé de s'incliner en avant.
Et maintenant, je décroche tout.
Emmanuel Pirret.
Je dédramatise et paille, paille. Je rentre à la maison.
Je décroche les anthropophages et les non-anthropophages.
Nous sommes des Guayaquis, non-anthropophages. Nous ne mangeons pas d'hommes, car la chair humaine est amère.
Et nous, les Guayaquis anthropophages, nous mangeons au contraire beaucoup d'hommes, car la chair humaine a très bon goût, oui, une saveur très douce.
Rien n'enlevait leur bonhomie aux Guayaquis, et ils n'avaient aucun souci de carnet d'adresse. Je finis de décrocher tout le monde. Les alpinistes décrochés retrouvèrent la parole et sillonnèrent la France pour raconter leur exploit. Les mystiques ne se décrochèrent pas. Ils restèrent blancs et divins, suspendus entre leurs draps et le ciel. Les castors juniors n'ont pas besoin d'être décrochés, ils sont décrochés par nature, et courent décrochés dans la forêt en relevant les empreintes des animaux. Nous sommes tous des petits garçons courant dans la forêt, une loupe à la main.
Collection de regards, regard numéro 7. Nous avons tous un regard numéro 7, qui se relève plein d'intelligente perplexité au-dessus d'une énorme loupe. Et nous avons, en même temps, notre regard numéro 8. À l'envers et troublé, notre regard de jeune fille, la tête en bas.
Je décroche la jeune fille.
6. La danseuse reprend, sur la plante des pieds et en souplesse, contact avec le sol.
Et quant à moi, qui aimerais maintenant par-dessus tout rentrer à la maison, je m'aperçois que j'ai totalement oublié de dire si la danse est oui ou non dangereuse pour nos amis les jeunes filles. Je réponds honnêtement. Premièrement, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on appelle dangereux. J'ai oublié de l'étudier, car la danse m'a entièrement préoccupée. Deuxièmement, honnêtement, ça m'est un peu égal. Car ce que j'observais en fin de compte au fond de l'eau avec ma loupe était ce qu'une pensée fait à un corps. Et comment ? On est blessé, suspendu, gagnant. Et comment on finit d'être vierge sur le chemin du retour? Troisièmement, honnêtement, se faire dévorer imaginairement par le regard d'un magicien anthropophage est une chose délicieuse. Et donc certainement très dangereuse.
La danse est-elle dangereuse pour les jeunes filles? 2 et
Agnès Sourdillon, Clara Lepicard, Roberto Graif, Jean Bollery, Yves Gerbollet, Pascal Camerbeck, Françoise-Henri Cumère, Marie-Isabelle Heck, Jean-Luc de Baptiste, Yann Cambrelin, Mireille Mossé, Frédéric Antoine, Alain Rigaud, Emmanuel Pirère. Bruitage Caroline Ledoux, prise de son, montage, mixage Philippe Carminati, Jean-Baptiste Etcheparé-Borde, assistante Brigitte Mazir, réalisation Marguerite Gâteau.